Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David. On te retrouvera tout à l'heure pour le drive. Ou pas d'ailleurs. Je crois que Romuald est revenu. Bon, ben voilà, c'est très bien. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée. Celle qui met en avant vos acteurs locaux et ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons les amis du théâtre de Dax avec Marie-Hélène et Damien. Bonjour tous les deux. Comment allez-vous ?
Très bien, Jean-Philippe.
Oui, bonjour. Oui, tout va très très bien.
Bonjour, bienvenue. On va faire découvrir la nouvelle programmation, hein, parce que tous les ans, il y a une programmation qui, je dois dire, hein, sans être démagogue, est quand même d'une très bonne qualité et que vraiment, je pense que les amis de l'agglomération ont bien de la chance d'avoir les spectacles que vous produisez dans ce bel écrin qui est l'Atrium. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti pour cette émission avec Marie-Hélène et Damien. Bon, je compte sur vous pour élever le débat après tout ce qu'on a entendu encore aux informations, parce que
c'est pas réjouissant.
Non, on va nourrir d'autres parties de notre esprit. Hein, ça sera un plus sympa. Ouais. On est content de vous recevoir. Hein, c'est une nouvelle saison qui démarre. Ouais. Avant d'en parler de cette nouvelle saison, est-ce qu'on peut faire un petit flashback sur celle qui s'achève ? Il y a quelque chose à en dire. Au niveau bilan, que ce soit quantitatif ou qualitatif, qu'est-ce que ça a donné cette année ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai envie de dire que c'était une très belle saison,
saison.
Ouais, qu'on a eue, hein, comme toutes les dernières aussi. Le public est toujours friand de ces nouvelles propositions. On fait des programmations qui proposent pour tout le monde. Des spectacles, et donc on est pratiquement à chaque fois complet
ça a été une année exceptionnelle où malgré l'augmentation des tarifs et la division, enfin on a décidé de faire deux tarifs, donc de placer les gens puisque le placement est à l'année, et de placer les plus hauts tarifs en bas et les moins bons tarifs en haut. Et on a été étonnés par la demande. Même chose cette année, par les tarifs le plus élevés, quoi. Une demande étonnante. Et l'année dernière, on a été complet quasiment à tous les spectacles. Et il y avait, on a eu pas mal de spectacles avec le proscenium libéré, ce qui faisait une soixantaine de places en plus.
Oui.
Donc à vendre au dernier moment,
c'était
complet.
Ah oui. On peut rappeler à peu près la jauge de
la jauge, c'est 400 maximum, 420.
D'accord. Ok.
Ouais, puis c'est à chaque fois des salles très diversifiées avec tous les âges qui sont représentés dans la salle. Et puis tout le temps, une magnifique écoute.
Oui. Les compagnies d'ailleurs sont à chaque fois étonnées et admiratives. D'ailleurs, elles le disent à la fin du spectacle, de la qualité d'écoute du spectateur.
Oui, on a fait quelques émissions ici, hein. Toujours passionnantes, parce que quand on a la chance d'avoir les metteurs en scène, les comédiens, etc., ça permet d'avoir des discussions sur des choses qui sont intéressantes. Ça, c'est très chouette. Alors, c'est aussi un petit anniversaire, il paraît.
Eh bien, oui. Nous fêtons cette année les 50 ans de l'association. Donc, de présence et de vie dans le territoire, à Dax et dans les Landes. Alors, donc, pour une association qui fête ses 50 ans, c'est un signe de bonne santé.
Oui.
Et la preuve qu'on ne ronronne pas, depuis 50 ans. Donc, cette association a été créée en 76. Et elle fait partie de la Fédération d'Associations de Théâtre Populaire, la FATP, qui avait été créée par Jean Villard. Dans cette fédération relie les spectateurs de la France entière à travers une passion commune, le théâtre. Elle rassemble une quinzaine d'ATP actuellement répartis sur la France.
Oui.
Ce qui correspond à 150 créations, 220 représentations, près de 50 000 spectateurs.
D'accord. Alors, ce réseau d'ATP, est-ce que vous vous appuyez dessus ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Par exemple, il peut y avoir un artiste qui va faire, entre guillemets, une tournée. Comment vous fonctionnez ?
Oui. Vas-y.
Ouais, après c'est, chaque année en fait il y a une coproduction en fait un spectacle qui est coproduit par l'ensemble
par la fédération
des ATP
et donc, c'est un jury de la fédération jury composé des différents membres des 15 ATP qui se réunissent fin janvier, début février, à Villeneuve-les-Avignon, et qui sélectionne, après une première sélection, après avoir lu des textes, des projets, quatre sont sélectionnés et viennent présenter leur projet à Villeneuve-les-Avignon.
D'accord.
Voilà. Et c'est, à la fin, voilà, au bout de deux jours de présentation, de discussion, sur les quatre projets qui est choisi.
D'accord.
Qui fera donc une tournée qui a une 20 000 € d'aide et qui est assurée de faire une tournée dans toutes les ATP.
Oui, voilà.
Donc voilà.
C'est pas mal.
C'est ce qui est bien pour elle, quoi. Oui. Puisque les compagnies,
c'est une sorte de tremplin, comme on fait pour les musiciens.
Faut savoir qu'en France, la durée de vie d'une création, c'est une représentation et demie ou deux représentations par spectacle. Un spectacle est créé pour une ou deux représentations.
Oui.
Donc là, c'est une véritable chance pour cette compagnie de pouvoir être diffusée dans tout ce réseau des
ATP. Être diffusée et au cours de ces 15 représentations, être vue par d'autres scènes, d'autres théâtres, et pouvoir continuer cette tournée, quoi.
Bien sûr, oui. Alors, vous parliez du prix que vous donniez. Alors, c'est vrai qu'il faut que les
spectateurs... c'est une bourse de 20 000 euros.
Oui, les spectateurs sont conscients du fait que souvent, tout ce qui est spectacle, au sens large, est subventionné, dans le sens où le prix qu'on paye à l'entrée est nettement inférieur que ce qu'on paierait s'il n'y avait aucune subvention. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup moins de gens qui auraient accès à ça. Je tenais à le rappeler parce que c'est quelque chose qu'il faut garder, ça. Hein.
Exactement.
Oui, les calculs, en fait, c'est à peu près sans subvention. Un théâtre facturerait une place à hauteur de 150 euros la place.
Voilà.
Donc, on n'irait pas voir beaucoup de spectacles.
Ben non, ouais. Hein. Non, ça sert à ça aussi les subventions. Hein. C'est bien d'en parler parce que ce soit les concerts, les spectacles. Alors d'ailleurs, le théâtre maintenant c'est autre chose que ce qu'on appelait théâtre avant. C'est que au niveau de la forme, je parle. Hein, on peut avoir de la musique, de la danse, Donc c'est devenu un peu multiforme le théâtre. Faut pas imaginer que le théâtre qu'on voyait autrefois avec cours jardin, je rentre, je sors, les gens qui parlent. Hein, dans les spectacles que vous avez concoctés, il y a vraiment de tout. On entend des voix, des chants, de la musique.
Tout à fait. Et de la musique souvent en live, live sur le plateau.
Oui, bien
sûr. Les musiciens sont présents.
Voilà, donc c'est vrai que le théâtre, c'est du spectacle.
C'est un spectacle complet.
Ouais, voilà, complet. Ouais. C'est pour ça aussi que ça a du succès, parce que des fois, les gens peut-être disent, le théâtre peut être synonyme de quelque chose d'un petit peu élitiste ou un peu coincé ou que sais-je. Mais voilà, là, c'est du spectacle. Il y a aussi de la musique, ça peut bouger aussi. Il faut s'imaginer que c'est moderne.
Oui, c'est vraiment du spectacle vivant.
Voilà.
C'est vraiment du spectacle vivant qui touche à beaucoup de disciplines. Et c'est un partage, un partage à un moment T où tout le monde se retrouve dans la scène et partage les mêmes émotions à ce moment-là.
Oui.
Donc avec les faiblesses parfois du spectacle vivant.
La vie, ouais, comme une émission en direct comme ici.
C'est, tout à fait.
C'est vivant parce qu'on peut faire des petites erreurs, parce qu'on est des êtres humains et la perfection.
Exactement.
Alors c'est intéressant d'en parler à la période, à l'époque, on est en train de batailler beaucoup avec la question de l'intelligence artificielle. Ouais. Pour l'instant, ça ne peut pas encore nous le prendre, ce spectacle vivant. D'autant plus que bien souvent, il y a des bords de scène, bien souvent après le spectacle.
Oui.
Et ça, c'est super parce que les artistes, eux, ils sont demandeurs de ça, ils sont contents de pouvoir échanger avec les gens. C'est pas des robots, les artistes.
Ouais.
Ouais, alors, c'est des véritables moments de partage, Marie-Hélène le disait, alors pendant le spectacle, mais effectivement, après, on essaye d'organiser le plus souvent possible des moments de partage directement après la représentation en salle, avec les questions...
bord de scène, questions des spectateurs, et quelquefois, certaines compagnies sont heureuses de sortir, d'aller dans le hall d'entrée à la rencontre des spectateurs qui viennent de voir le spectacle.
Et oui, il y a un quatrième mur à briser de temps en temps. Mais bien sûr, parce que les artistes, ils ont envie d'entendre, ils ont même besoin, sans retour. Hein. C'est comme quand on chante, si on n'a pas de retour, on ne peut pas bien chanter. Hein. Oui. C'est pareil.
Mais d'ailleurs, de plus en plus aussi, on propose aux artistes d'aller aussi à la rencontre des spectateurs en dehors du théâtre, que ça soit dans les associations ou dans les établissements scolaires, pour faire des ateliers de pratique et se familiariser avec l'univers du spectacle que les spectateurs iront voir juste après.
Je rappelle, puisqu'on a parlé de la saison précédente, notre dernier spectacle, c'était Nas, un spectacle chorégraphié qui était extraordinaire, et la veille, deux danseurs sont allés à Aruntasieff et à Pouillon pour faire une masterclass, si vous voulez, auprès d'élèves ou à Pouillon. C'était c'était une association avec un mélange d'âge. Il y avait des jeunes, des plus vieux. Et ça, c'est... Le public aime beaucoup ça, et les comédiens aussi aiment beaucoup ça.
Mais c'est bien parce que ça brise un peu cette impression qu'il y aurait une sorte d'élitisme, que les artistes ils seraient sur leur... Alors en fait, non, il y a vraiment un rapport entre les artistes et les spectateurs qui est fondamental. Voilà, on a fait une bonne petite introduction, on va faire une première pause musicale, et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission.
Tout à fait.
Et on retrouve Marie-Hélène et Damien, des amis du Théâtre de Dax. Alors, on va démarrer, on va parler de la nouvelle programmation. Bon, on a entendu Édith Piaf, il y a une raison à ça.
C'est un super hasard, tiens donc. On a un spectacle qui s'appelle Édith et moi, ça sera le deuxième de la saison. On revient juste après sur le premier, mais là, ça sera le jeudi 19 novembre. C'est un spectacle qui a la chance d'avoir deux représentations, une à 14h30 et une à 20h30. Donc c'est un... effectivement, l'après-midi, c'est plus accessible pour les scolaires. Et c'est un spectacle de marionnettes. On parlait tout à l'heure de la diversité de notre programmation. Marionnettes, alors faut pas imaginer le guignol, ou le petit pantin à fil.
Non, pas du
là,
tout.
C'est de la marionnette à gaine, mais spéciale, un peu style Muppets. Sur scène, Yaël Rassouli, une artiste très complète, qui chante, qui danse, qui s'exprime aussi par sa création de marionnettes. C'est elle qui crée les marionnettes. Marionnettes et toute la scénographie qui est sur scène, elle manipule une marionnette qui est la marionnette d'Édith Piaf.
Voilà, c'est ça.
Elle convoque ce personnage mythique, et dans cette convocation, elle va nous raconter sa propre histoire, sa propre vie à elle, qu'elle va mélanger avec la vie d'Édith Piaf. Donc ça aborde des sujets qu'elle a traversés, qui sont pas forcément des plus faciles. On va aborder les questions de violence sexuelle, de reconstruction, mais tout ça avec une certaine pointe d'humour, de sarcasme, un travail sur la lumière aussi qui est impressionnant, où elle nous embarque dans différents univers, rien qu'avec la lumière et quelques castellets qui nous font penser qu'on est dans un endroit ou un autre, et tout ça seul en scène. Voilà, Yaël Rassouli fait vraiment une artiste totale. Si on a envie de voir ce spectacle, voilà, c'est vraiment pour redécouvrir Édith Piaf et l'artiste. La marionnettiste, c'est vraiment une performance artistique assez rare, assez audacieuse, qui nous est proposée là cette année. Et puis on va être traversé par toutes les émotions, de la joie, de la tristesse, de la réflexion. Et c'est surtout un magnifique message d'espoir que les deux artistes, en fin de compte, nous délivrent sur scène.
C'est ça, c'est un procédé commode qui permet de déguiser un monologue en dialogue, d'avoir une en face de soi. Au lieu de s'adresser à l'artiste, au public, pardon, on va s'adresser à la marionnette. Très bien. Donc ça, c'était en fait en deuxième position, mais comme on a écouté la musique, on a commencé par ça, mais on va parler de Made in France maintenant.
Alors, Made in France ouvre la saison le mardi 13 octobre. Pardon. C'est l'histoire d'un anti-héros, Émile. Alors, Émile sort de prison et compte bien ne pas y retourner. Donc, il a accepté un réaménagement de peine et le poste de balayeur dans une aciérie. Or, pas de chance, le jour où il arrive à l'usine, l'usine est en pleine effervescence. On parle de la délocaliser.
Ah, oui.
Donc, on va, voilà, on va, les mots, des mots qui nous parlent, désindustrialisation, trahison syndicale, politique opportuniste, c'est du lourd. Et pourtant, la pièce est très drôle, très rythmée, intelligente, et on peut dire vaudevillesque.
D'accord.
Voilà, c'est une farce féroce et engagée. Tout le monde en prend pour son grade, les patrons, les syndicats, les élus. Et malgré le sérieux du propos, le public sort du spectacle emballé.
Très bien. Bon, mais c'est bien de le décrire un peu, parce que c'est vrai que si on prenait juste le sujet, etc., on dirait, oh là, c'est quelque chose de lourd, hein, parce qu'on a vu des films comme ça. Hein. Mais voilà, là c'est, c'est de la comédie un peu acide.
Voilà, un peu acide, mais il faut reconnaître que la pièce a eu le Molière de la mise en scène cette année, en 2026.
Et oui, ce qui est un gage
donc,
de qualité.
C'est un gage de qualité, c'est une pièce qui continue à tourner, voilà. Il y a 6 comédiens sur scène.
Oui, ce qui est pas mal, en fait.
C'est pas mal.
Oui, si, ça prend de la place, tout ça.
Ça prend de la place, oui, tout à fait.
Très bien. On va continuer un petit peu avec c'est le prix de l'or qui nous attend après, je crois.
Alors, le prix de l'or, c'est moi qui continue. C'est le mardi 8 décembre. Le mardi 8 décembre, c'est-à-dire c'est le dernier spectacle du trimestre pour 2026. Alors, c'est le prix de l'or et de et avec Eugène Gébeleanu. Il est metteur en scène et réalisateur. Il est né en Roumanie en 1989. Alors, petite parenthèse, qui parlera peut-être pas au moins de 20 ans, qui va parler au moins de 20 ans, pas aux jeunes, ça parlera pas aux jeunes. Bon, c'est l'époque en Roumanie de Ceausescu.
Ah ben oui, c'est vrai.
Voilà. Oui, oui. C'est l'époque aussi où Nadia Comăneci a été une gymnaste plusieurs fois médaillée d'or. Elle a obtenu en 76 la première note de toute la vie de l'olympisme. Elle a une note de 10 sur 10, ce qui était exceptionnel.
Oui.
Elle a été considérée comme la meilleure gymnaste de tous les temps.
C'est vrai, oui.
Voilà. Alors, elle s'est enfuie de Roumanie parce que la Roumanie, ce n'était pas un pays. C'était quand même Ceausescu était un dictateur voilà, terrible. Donc, elle s'est enfuie aux États-Unis très peu de temps avant la mort de Ceausescu. Bon, bref, je parle quand même du prix de l'or. Donc, de Eugène Gébeleanu raconte un petit peu sa vie. Il a 7 ans, et il est encouragé par son père à 7 ans pour commencer la danse sportive.
D'accord.
Il va faire la danse sportive. Donc, il va grandir, enchaîner entraînement, compétition, connaître la dure vie des sportifs de haut niveau, avec les répercussions mentales et physiques et de la course aux médailles.
Oui, et puis les pays de l'Est, on sait ce que c'était.
Et les pays de l'Est, c'était terrible.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pour ça aussi que Nadia Comăneci a quitté et est partie se réfugier aux États-Unis.
Bien sûr,
Donc, Eugène... voilà, a réussi à gagner des médailles, des concours dans le cadre de ses danses sportives. Donc à l'âge où on rêve de rendre fiers ses parents et de gagner leur amour. Et son père meurt alors qu'il a 16 ans et il arrête tout. Et la pièce, c'est ça, c'est... Le temps a passé, Et Eugène a décidé de remonter sur scène pour nous faire partager ces épisodes de sa jeunesse. Mais c'est entre théâtre et projection, images d'archives personnelles. Il est accompagné sur scène par un couple de danseurs professionnels de niveau international qui va rythmer son récit. Donc, ils vont danser. Lui danse aussi avec eux. Il va danser avec eux. Et ils vont danser 10 danses réglementaires de compétition. Alors, je vais les citer parce que c'est assez drôle.
Mais c'est rapidement. Oui.
Rapidement. Oui. Tango, slow fox, valse lente, cha-cha, samba, passo doble, quick step, rumba, valse viennoise. Et une que je ne connaissais pas, ça s'appelle la Jive.
Ah oui.
Alors, je suis allée voir sur Internet. Ben, la Jive, c'est It's the Road, Jack.
Ah oui, d'accord.
Chanté par Ray Charles.
Ah oui, d'accord, oui, oui.
Et il danse là-dessus.
Ah d'accord, ça c'est un style bien à part. Ah bon,
oui.
D'accord, très bien.
Oui, oui. Donc, c'est touchant de sincérité, plein d'énergie. Et il se pourrait qu'il fasse monter des spectateurs sur scène pour danser.
Très bien. Voilà. Ah, ben, prévoyez, hein.
Oui,
prévoyez.
Voilà.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est déjà le moment de faire une deuxième pause. On va écouter le Flash Info local et on retrouve nos invités pour la suite de cette programmation. Et nous voilà de retour. Alors, bon, une petite explication quand même de musique est passée, parce que vous êtes un peu surpris. Vous avez entendu quelque chose qui avait l'air assez ancien. Effectivement, ça date de l'Antiquité. Alors, et là, le deuxième morceau était en lien aussi. Hein, donc, c'est une compositrice, Florence Caillon, qui parle. Donc, son spectacle, c'est Orphée. Et donc, le premier clin d'œil, le premier morceau, c'était l'épopée de Gilgamesh, qui date de l'époque sumérienne, hein, qui reproduit une histoire qui est un peu similaire, avec quelqu'un qui va chercher quelqu'un qu'il aime beaucoup dans les enfers, qui essaie de le sauver. Et donc, on écoutait Florence Caillon aussi. Donc, ce piano, c'était extrait de son spectacle Orphée aussi, EES, avec une écriture un peu inclusive.
Ouais, tout à fait. Là, c'est vrai que c'est le dernier spectacle de la saison. On fait vraiment un bond dans le temps. Ça sera le mardi 4 mai à 20h30. Là, il y aura une représentation. Même si c'est un spectacle qui est vraiment ouvert à toute la famille, hein, à partir de 7 ans, c'est un spectacle plutôt de cirque porté. C'est sur scène circassien. Le titre, on l'a dit, c'est Orphée, avec l'écriture inclusive, parce que Florence Caillon, qui compose la musique du spectacle, et aussi la chorégraphe, la metteuse en scène du spectacle, elle nous dit que nous sommes une multitude d'Orphées, tous susceptibles à tout moment de notre vie d'être saisis par le doute. Parce qu'en fait, elle va chercher dans le mythe d'Orphée juste cette essence-là de ce moment-là où Orphée peut sauver Eurydice des enfers, mais va avoir le doute, va se retourner et va la perdre à jamais. Oui. Et donc tout le spectacle est basé sur ce doute et sur cette incertitude. Là, les circassiens se portent, se transportent, se supportent, mais avec chaque fois cette mise en scène du doute. Est-ce qu'il va réussir à la transporter, à la surélever? Je parle d'acrobatie, hein, bien sûr. C'est vraiment un spectacle sur la force du doute et cette force du doute qui est loin en fait d'être une faiblesse, mais qui peut être aussi un avantage, l'incertitude. C'est un spectacle sur la confiance aussi en soi, la confiance en l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment un spectacle si on a envie de découvrir cet univers, ou si on a adoré cet univers, parce que ce spectacle-là de Florence Caillon, c'est une création, mais nous à Dax, on a déjà eu le Lac des Cygnes, c'était il y a 2 saisons de ça, un spectacle aussi sur le même format, avec des circassiens chorégraphes qui sont au plateau, et puis cette musique envoûtante de Florence Caillon. C'est vraiment une performance physique, c'est la mise en scène du risque. Et puis, encore une fois, un spectacle vraiment pour toute la famille. Donc, s'il y a un spectacle à aller voir avec ses enfants à partir de 8 ans cette année dans notre programmation, ce sera celui-ci.
Alors, pour l'anecdote vite fait, il se trouve que c'est elle-même aussi qui a composé la musique de Père Castor. non, mais c'est marrant parce qu'on dit, tiens, ça fait un contraste surprenant. Bon, c'est marrant de le dire. Alors, on va passer à Stendhal, Le Rouge et le Noir.
Pas beaucoup de temps, non, je vais aller vite.
Oui.
Hein. Donc, Le Rouge et le Noir, c'est donc l'adaptation du roman de Stendhal, qui est paru en 1830. À l'époque, ce roman a choqué la bonne société, car il a lié passion amoureuse et ambition dévorante. C'était un livre sulfureux. Mmh. Et donc, c'est Catherine Marna qui en fait une adaptation. Si je peux faire un petit résumé rapide. Oui. Julien Sorel, ce sont des personnages que nous avons tous dans nos mémoires, je pense. Hein. Julien Sorel est fils de charpentier d'origine modeste, provincial, orgueilleux, plutôt bel homme. Il devient percepteur des enfants de Madame Rénal, qu'il séduit et dont elle tombe amoureuse. Passion coupable, sans issue. Mmh. Il va s'éloigner et entrer au séminaire pour cacher ses vraies pensées sous l'habit noir du clergé, le noir.
Eh oui.
Voilà. Mais il va poursuivre son ascension sociale en acceptant le poste de secrétaire du marquis de la Mole et il quitte la province et part à Paris. Le marquis a une très belle fille, capricieuse, orgueilleuse, courtisée par de nombreux prétendants de son rang, mais ils deviennent amants, scandale. Le marquis va alors le faire lieutenant des hussards, le rouge, et l'anoblir. La vie de Julien va basculer quand il tente d'assassiner Madame de Rénal, que son confesseur, c'est la religion a une place très importante dans le roman, son confesseur a contraint à dénoncer l'immoralisme de ce jeune homme. Mmh. Donc il va être arrêté et jugé. Et c'est à ce moment-là du livre que Catherine Marnas décide de commencer la pièce, ce qui est très intéressant. Elle ne fait pas de lecture linéaire du roman et on va assister au procès de ce héros romantique. Donc des questions sont posées. Pour quel crime sera-t-il condamné? Pour avoir voulu tuer Madame de Rénal ou pour sa folle quête d'ascension sociale? Julien Sorel serait-il un transfuge de classe avant l'heure?
Très bien.
Donc, elle mêle adroitement le texte stendhalien à des questions, à un questionnement contemporain à l'aide de projections vidéo en direct. Les comédiens sont époustouflants de talent. La mise en scène est spectaculaire. C'est une version moderne du roman qui ravive tout l'éclat de ce classique intemporel. Et alors, j'ai lu une interview où Catherine Marna disait qu'à la suite de ce spectacle, elle était très contente quand un spectateur lui disait « Vous m'avez donné envie de lire le roman ».
Très bien. Voilà. On va passer rapidement à la suite, hein, parce qu'on a encore plus de spectacles. On va parler de l'article 353 du Code pénal.
Ouais. On parlait de spectacle de procès. Dans celui-ci, il en est aussi un petit peu question. C'est l'adaptation d'un ouvrage de Tanguy Vielle qui était sorti en 2017 du même titre, article 353 du Code pénal. Mmh. Quand on cherche bien d'ailleurs, cet article n'existe pas.
Hein, il n'existe pas.
C'est l'article du Code de procédure pénale qui revient sur l'intime conviction. Mmh. Et là, en fait, sur scène, on a deux comédiens. L'un, et n'est pas des moindres, c'est le metteur en scène Emmanuel Noblet qui est le rôle du juge, et l'autre qui a eu le prix de la critique 2025 du meilleur comédien. Il a eu aussi une nomination aux Oscars, vers Vincent Garanger, qui joue le rôle d'un personnage qui va se confesser, enfin pas qui va se confesser mais qui va raconter le crime qu'il a commis. C'est une pièce magistrale, hein, sur une grande performance d'acteur, une réflexion sur la justice et sur la question de la société et la question sociale vis-à-vis du divorce, de garde d'enfants, licenciement, l'exclusion.
C'est presque un 12 hommes en colère, mais avec seulement deux personnes, un petit peu. Le côté.
On est là-dedans, avec une mise en scène, effectivement, presque cinématographique, puisque en fond de salle, on a une projection qui nous envoie dans les différents décors de l'action.
D'accord. Ouais. Très bien. On va parler maintenant de Nénen. Oh, c'est un joli petit surnom, Nénen.
Joli petit surnom.
Oui.
Donc, on a parlé tout à l'heure de la coproduction de cette pièce qui est sélectionnée, qui a été sélectionnée par la fédération.
Voilà, ce dont on parlait, oui.
Donc c'est une pièce dont on a vu à Villeneuve-les-Avignon la présentation, mais nous n'avons pas vu la pièce aboutie, puisqu'elle ne sera créée que le 8 octobre.
D'accord.
2026. Mmh. Voilà, donc Nenen est un petit nom, de même que Nounou, Nani,
voilà, c'est
Dada.
Ça.
Donc ce sont des petits noms que l'on donnait aux femmes qui gardaient des nourrissons, qui les allaitaient, qui vendaient leur lait pour vivre.
Oui, oui.
Donc ces femmes ont quitté leur famille, leurs propres enfants parfois, pour nourrir les nourrissons de familles riches. Elles ont quitté leur région et parfois leur pays. Mmh. Alors, qui se souvient d'elles ?
Et oui.
Qui se souvient, donc, c'est Anaë Groulard-Boulet qui a écrit le texte. Mmh. Et donc, c'est un collectif de jeunes femmes qui s'est emparé de ce sujet et qui s'appuie sur Euphrasie, voilà, sur trois nounous, trois nénènes. Euphrasie, qui est femme malgache en 1790, qui ne se sont jamais connues, évidemment.
Oui.
Délise, femme morvandelle en 1880, parce que le Morvan a produit énormément en France de nourrices. Et d'Antoinette, femme réunionnaise en 1960. Donc c'est quelque chose qui a partout existé. Hein. Donc cette très jeune compagnie s'est emparée du sujet pour sortir ses nounous de l'oubli. Donc elles ont construit leur projet autour de témoignages et d'archives. C'est un récit qui nous interroge sur le passé, mais aussi sur le présent. Le corps féminin, la maternité, le patriarcat, les rapports du pouvoir.
Tiens, ça me rappelle une série qui passe à la télé... La servante écarlate, hein,
oui.
qui est un peu plus violent peut-être,
voilà.
Mais il y a une problématique qui ressemble,
voilà,
un petit peu. Ouais.
Donc les trois comédiennes sur scène sont accompagnées d'un musicien. Elles chantent des berceuses, des comptines. Leurs langues maternelles se croisent, ainsi que les époques. Elles reviennent sur leur destin. Sous le regard, voilà, d'un témoignage, c'est un témoignage vivant, un témoignage vivant de l'histoire.
D'accord.
Donc c'est un spectacle à découvrir, puisque nous ne l'avons pas vu.
Et oui.
Mais c'est un spectacle à découvrir qui est touchant, qui est touchant. Voilà, c'est un spectacle à découvrir.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que, par la forme, le côté comptine, berceuse, est-ce que vous diriez que c'est bien pour les enfants ? Enfin, même si ce n'est pas forcément un spectacle pour les enfants, mais est-ce que ça ne peut pas être un moment à partager avec les enfants, les plus petits, du fait de la forme ?
Je ne pense pas.
Ouais, non, c'est un spectacle, celui-ci, qui sera à partir vraiment d'un public de collégiens. On le propose à partir, nous, de la troisième,
quand on
vient le présenter dans les établissements scolaires. Donc, c'est à partir de 15 ans.
C'est bien de le dire parce que c'est vrai que dépendant le mot, on peut penser que c'est pour les petits.
Non.
Très bien. Eh bien, on va faire notre dernière pause et on parlera encore de ce qu'il nous reste encore un spectacle ou deux. Puis bon, des actus à citer, les infos. Voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite.
Tout de suite.
Et voilà, nous voilà de retour pour cette programmation. On va parler de la dernière partie. Alors, désolé pour cette heure à grande écoute, mais le titre, c'est comme ça, j'ai pas rien, c'est Niquer la fatalité.
Ouais, mais tout de suite, on peut le dire, niquer. En fait, ça vient aussi du grec qui signifie la victoire. C'est une déesse. D'ailleurs, si vous êtes allé au Louvre, une sculpture, la victoire de Samothrace, qui représente cette déesse avec les ailes.
Qui est tronquée d'ailleurs, manque la tête et tout.
Tout
effectivement.
Oui, oui. Et donc ça vient de là, niquer la fatalité, bon, même si c'est avec un K. Donc là, c'est un spectacle d'Estelle Meyer. Estelle Meyer, on a pu la rencontrer dans des différentes séries, et notamment 10%, qui était diffusée sur France Télévisions. C'est une comédienne, mais aussi donc une magnifique metteuse en scène, puisque là, elle nous embarque en seule en scène, une femme donc sur scène qui nous parle des femmes, avec un grand F. Elle va convoquer notamment Gisèle Halimi, qui est dans les années 70-80, une grande dame avocate, militante féministe, oui. Sur le droit d'avortement, l'IVG, puis la criminalisation du viol.
Voilà.
Donc c'est vraiment un spectacle qui va questionner le fait de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. C'est vraiment un récit initiatique. Et puis pour les spectateurs, une expérience collective qui est réparatrice aussi. Tout en mêlant poésie, théâtre, musique, elle chante sur scène, elle se costume. Elle est accompagnée d'ailleurs de deux musiciens au piano et à la batterie. Donc c'est un spectacle type cabaret, très engagé, féministe, qui nous amène vraiment à la réflexion et à une réelle réflexion et une ode à l'émancipation et à la liberté. C'est un grand, grand spectacle à venir découvrir avec la force donc d'Estelle Meyer qui nous embarque, elle aussi, le jeudi 1er avril
à
20h30.
Et ce n'est pas un poisson.
Et non. Ça sera pas une blague.
Non, c'est pas un poisson, non.
Ça ne sera pas un poisson.
Ah, mais une belle présence féminine dans la programmation,
oui.
Dites-moi. Hein, quand
oui,
même,
oui.
C'est notable.
Oui. Il faudrait.
C'est vrai que les spectacles se font écho, en fin de compte. Néné, Niquer la fatalité.
Mais...
On a aussi Le Rouge et le Noir, article 353. Enfin, il y a vraiment une cohérence aussi dans cette programmation pour faire tout un parcours qui est en dialogue pour le spectateur.
Mais voilà, mais c'est tout à votre honneur qui a construit cette programmation. Hein. C'est parce que c'est du boulot d'être trouver les spectacles.
C'est du
spectacles.
Boulot.
Ah bah, oui,
c'est très compliqué de faire une programmation.
Oui, j'imagine. Il faut les trouver, les petits bijoux.
Ouais. Exactement.
Et puis les mettre à disposition des gens, c'est pas toujours évident. On parlait tout à l'heure de finances, on va pas parler tout le temps d'argent, mais ça a un coût tout ça.
Oui.
Voilà. c'est un travail conséquent.
Voilà, il faut jouer sur la programmation, sur un budget, faire attention.
Oui. C'est une équipe de bénévoles au quotidien, tout au long de l'année, qui se déplacent pour aller voir des spectacles. L'été, un certain nombre d'entre nous se déplacent au Festival d'Avignon.
Aurillac, peut-être aussi.
Aurillac,
mais il y a Paris. Il y a Bordeaux.
Ouais.
Le Rouge et le Noir, on l'avait vu au TNB à Bordeaux. Il y a Mont-de-Marsan, il y a Biarritz. Voilà.
Oui. Il faut aller partout.
Il faut aller partout.
Pour dénicher
Laurent,
les petites perles.
Ça peut être Laurent, ça peut être. Oui, il faut aller partout.
Oui, il faut aller chercher. Vous
faut
nous
aller chercher
vos,
les pépites.
Vous nous ramenez vos petites pépites.
Voilà.
Et d'ailleurs, là, comme la programmation va commencer, ça veut dire que techniquement, vous êtes déjà en train de penser à la suivante.
Presque.
Non.
Presque, mais la suivante va être très compliquée compte tenu des travaux à l'Atrium.
Ah, il y a des travaux à l'Atrium. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait eu un petit problème, quelque chose qui s'était
escalpé. Il va être fermé une partie de.
Pas mal
l'année prochaine. Donc
Mince.
Ça va être très très compliqué. Donc il va y avoir des choix.
Donc faut profiter.
On va avoir des choix à faire. Faut profiter de cette année.
Alors d'ailleurs, pour les 50 ans, est-ce que il y a quelque chose de prévu? Est-ce que vous avez acheté les bougies? Est-ce qu'il y a un gâteau? Est-ce qu'il y a un événement un peu particulier? Vous avez prévu à un moment donné ou pas à l'Atrium pour vous l'avez juste l'évoquer comme ça?
On ne peut pas dire grand-chose, mais il y aura des surprises.
Ah bon, voilà. Oh ben mince alors, vous n'êtes pas une bonne cliente.
On ne peut pas dire, il y aura des surprises.
Oh, très bien.
Voilà, il y aura des surprises le 13 octobre, mais il y aura, je pense, des surprises tout au long de l'année. Qui émaillera la saison.
Très bien. Et puis voilà, les scolaires aussi, ça c'est important, le pass culture, etc. Il faut que les jeunes, on a parlé tout à l'heure de la présence des fois de certains artistes dans les établissements scolaires.
Oui.
Voilà, il faut, ça se prend jeune, les spectateurs, aller former, les éduquer, et puis c'est... C'est une manière aussi d'éduquer l'esprit au sens critique et à la découverte du beau.
Oui, tout à fait. Il y a toujours en fait ce côté-là vraiment d'ouvrir les spectacles aux plus jeunes avec le dispositif « Ce soir, je sors mon prof » où on va à la rencontre des jeunes pour leur présenter la saison et c'est eux qui choisissent pour leur prof et pour toute leur classe la sortie théâtrale.
Oui, démocratiquement, ils choisissent parmi les 8 spectacles, ils choisissent un spectacle qu'ils vont venir voir soir, accompagnés de leur prof.
C'est vrai qu'à une époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, je voyais les lycéens du lycée de Tyros qui venaient avec leurs enseignants. Hein. Alors, c'est un peu la même philosophie qu'au ciné-tir à Tyros aussi, au cinéma, où il y a le ciné-ado, où c'est les ados qui choisissent quel est le film qui sera diffusé.
Voilà.
Et c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir un peu les... qu'est-ce qui les intéresse.
Exactement. Hein, parce que on est surpris.
Voilà, on est souvent surpris. Oui. On a plein d'a priori, comme tout le monde.
On est surpris par leur choix.
Oh, les jeunes et tout, et ben on est super surpris. Voilà.
Très surpris par les choix.
Beaucoup, beaucoup de quêtes d'identité, de genre, etc. C'est des ados, c'est normal.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup tous les deux. On a un peu couru, hein, mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein, c'est pour la bonne cause.
C'est un peu la course, oui. Moi, je voulais remercier tous nos partenaires.
Mais allez, voilà, allons-y, allons-y.
Je voulais remercier tous nos partenaires, la région, pas la région, le département, mais la mairie. La mairie qui met l'Atrium à notre disposition, ainsi que la présence des techniciens, toute son équipe technique qui est excessivement précieuse.
Voilà, oui.
Voilà, donc je terminerai.
C'est vrai que vous avez la chance d'avoir un bel écrin, quand même.
Tout à fait.
C'est pas mal. Hein.
Tout à fait. Et les comédiens. Sont sensibles, ils retiennent, ils gardent en mémoire cette salle.
Bien sûr, tant mieux. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et puis bonne saison qui démarre.
Merci Jean-Philippe. Voilà.
Merci pour l'accueil.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.